C'est à mon tour de remercier les compagnons pour cette belle traversée qui nous a permis d'arriver à bon port. Contrairement à l'épisode malheureux du Costas, nous nous sommes arrivés à bon port parce que le capitaine, c'est le Seigneur Jésus. En les voyant évoluer, je pensais à mes enfants parce que hier, c'était l'anniversaire de mes jumeaux. Ils sont de grands jeunes maintenant. Et je suis aussi également heureux d'avoir ce matin avec moi mes parents qui m'accompagnent. C'est toujours un plaisir. Mais surtout de revoir des anciens élèves, notamment comme ils sont au premier banc, je peux les voir et les revoir. Marika, Dayenka, toujours copines, c'est bien. Et puis, j'ai plaisir à voir mes invités. Et parmi mes invités, un petit salut à ma chère Géraldine. Et puis aussi un salut à mon groupe d'études. C'est une surprise. À côté de Dr Berle, il y a plusieurs personnes que j'aurai plaisir à saluer à l'issue de cette rencontre. C'est une surprise pour moi de vous voir. Et le samedi, chaque fois que je peux me libérer, nous avons un petit groupe où nous partageons à propos de la parole de Dieu. Et c'est un plaisir pour nous de nous rencontrer et après la prière, d'échanger sur des thèmes qui nous font, qui nous ravissent, parce que le Seigneur a toujours quelque chose à nous dire. Merci beaucoup d'être présent. Je voudrais également saluer mes collègues de bureau et puis remercier l'église de Smyrne, sa direction, et notamment mon cher collègue dans la proclamation de l'Évangile, mon cher Tony, permettez-moi de l'appeler par son prénom, qui a toujours le mot pour détendre. Pas vrai? Vous avez un pasteur qui sait vous titiller et vous faire sourire. Je me permettrai d'échanger avec vous un petit propos de sacristie. Liane, tu viens avec moi? Je voudrais le remercier parce qu'il a très bien fait sa présentation ce matin. Vous savez, ce n'est pas évident d'être ici devant tout ça de monde. Tant Dieu qui vous regarde, et il a fait ça vraiment de façon magnifique. Ça, c'est pour toi. Mais quand votre pasteur l'a vu dans la sacristie, bien sûr qu'il a été ébloui parce que ce jeune homme, n'est-ce pas? Il est vraiment très beau ce matin, pas vrai? Félicitations à ses parents qui l'ont ainsi très bien apprêté. Et puis pour ta présentation. Et je prie Dieu pour qu'il devienne à son tour un prédicateur de l'Évangile. Mais quand son pasteur l'a vu, j'y reviens. Eh bien, Tony n'a pas pu s'empêcher de dire, mais la prochaine fois que ta maman t'achète un si beau costard, un si beau costume, dis-lui d'en acheter un pour le pasteur aussi. Ça, c'est du Tony tout craché. Alors, ce matin, on a aussi déroulé le tapis rouge pour les enfants. Ça, c'est très bien aussi. Une très belle histoire. Bien mené sur la confiance. Et je crois que si les enfants sont chaque sabbat comme cela, bien entretenus, ils grandiront pour le Seigneur. Je voudrais que nous puissions nous concentrer pour entendre la proclamation de la parole de Dieu et que nous puissions prier dans nos cœurs. Cette semaine est une semaine spéciale où nous serons ensemble et je me réjouis déjà pour ces différents rendez-vous. Certains soirs, je serai en prédication, mais d'autres soirs, je serai avec vous pour vous attendre et ainsi, dans l'intimité d'un rendez-vous, pouvoir causer de certaines difficultés, pour échanger quelques outils, afin que ça aille mieux dans les couples, dans les familles, dans les vies. Maintenant, ces prédications qui viennent de la parole de Dieu sont des proclamations qui parfois remuent un peu, parce qu'on touche ici au domaine de l'intime, au cœur des relations. Et parfois, il y a un travail intérieur qui se fait, et parfois, on a mal. Sachez que ce n'est jamais pour blesser, jamais pour juger, jamais pour violenter, mais qu'il y a toujours un baume au sein de la parole de Dieu, et vous trouverez la guérison, vous trouverez ce qu'il vous faut en revenant chaque soir. Comme on dit, ce n'est pas du jeu. Nul n'ignore dans quelle société on vit et ce qui s'y passe. Pas une semaine ici à la Martinique sans une mort violente, pas une semaine sans une agression. Et cela rend notre environnement plus dangereux et plus incertain. L'état du monde, en réalité, ne nous surprend pas. Il ne peut pas nous surprendre. Il ne peut pas surprendre le chrétien, et encore moins l'adventiste du septième jour, qui connaît les prophéties, qui les étudie, et qui a l'occasion, à chaque cycle d'études de l'école du sabbat, de passer en revue ces prophéties qui nous disent, qui nous prédisent ce qui va arriver. Et je voudrais ici m'arrêter sur cette prophétie de l'apôtre Paul qui rappelle à Timothée, son jeune compagnon, d'armes dans la prédication de l'Évangile et qui nous remet à l'esprit et nous dépeint la situation de la société à l'époque de l'apôtre et de la jeune Église, l'époque de ses débuts. Et quand on lit ce qui est écrit dans la deuxième épître à Timothée, chapitre 3 et le verset 1er, même si parfois les versets s'affichent, prenez le temps d'ouvrir votre Bible, chers amis, afin de pouvoir vous-même y lire ce qui y est placé. Eh bien, cette prophétie que nous lisons ici pourrait fort bien faire les titres de la presse nationale aujourd'hui, voire du quotidien des Antilles. Ainsi s'exprimait l'apôtre, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps de crise. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Pourquoi ? Pourquoi ? Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Étrangement, on applique rapidement et par d'étranges raccourcis cette prophétie à l'état du monde et à l'état de notre société. Et ceux qui le font n'ont pas totalement tort. Mais il ne faut pas oublier, chers amis, il faut le savoir, que cette prophétie s'adresse d'abord à l'Église. C'est l'état de l'Église que l'apôtre décrit ici tout d'abord. Souvent, quand nous parlons de choses négatives, nous visons ce que nous appelons le monde, la société, les gens du dehors, ce que nous aimons rapidement appeler les incroyants. Or, quand nous pointons l'index pour juger et accuser, souvenons-nous qu'il y a toujours trois autres doigts de la main qui sont pointés vers nous-mêmes. Il faut tout de même se rappeler qu'il s'agit de nos frères et de nos sœurs, ces hommes et ces femmes que nous appelons les gens du dehors, ceux du monde, mais ce sont nos frères et sœurs, des gens pour qui le bon Dieu a donné son sang tout autant que pour nous. Et c'est pour ces gens-là aussi que l'apôtre dit, en Jean 3, verset 16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Pourquoi faut-il appliquer cette prophétie que l'on applique généralement à la société, au monde ? Pourquoi faudrait-il l'appliquer à l'Église ? Doit-on penser que dans l'Église, au scandale, il y aurait des égoïstes, des amis de l'argent, des fanfarons, des hautains, des blasphémateurs, des rebelles à leurs parents dans l'Église, des ingrats, des irreligieux, des insensibles, des déloyaux, des calomniateurs, des intempérants, des cruels, des ennemis de gens de bien, des traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu dans l'Église, du Dieu vivant, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Voilà pourquoi ceux qui cherchent l'Église parfaite, l'Église de leurs rêves, où tout se passe bien, où tout est sucré, où il n'y a pas de pécheurs, où c'est l'amour fraternel à gogo, en veux-tu, en voilà, À cela, je leur dis, surtout ne venez pas là où moi, Daniel, adore, parce qu'à cause de moi, vous serez certainement déçus, parce que je suis pécheur. Et ils risqueront de repartir, ces gens-là, qui viennent chercher l'église parfaite. Mais le jour où vous l'aurez trouvée, cette église parfaite, l'église de vos rêves, ne manquez pas de m'en avertir. Toutefois, chers amis, l'église a un beau message. L'église a des idéaux, l'église a des valeurs. Elle ne possède pas la vérité, mais elle nous aide à cheminer au plus près de cette vérité qui est Jésus-Christ, le ressuscité. Et voilà pourquoi ne comptez pas sur moi pour abandonner mon église, celle qui proclame le message du retour de Jésus. Mais malheureusement, force est de constater, chers amis, que cette église sur laquelle Dieu veille comme sur la prunelle de ses yeux se laisse trop souvent corrompre, détourner, contaminer, elle s'endort. Et c'est pourquoi, du reste, on parle du réveil et de réforme. C'est parce qu'elle a tendance, l'Église, elle a tendance à s'enliser, à s'embourber. Et c'est à propos, et c'est à ce propos que l'apôtre Paul dira fort justement qu'il faut que l'Église, qu'il faut que les croyants, qu'il faut que les chrétiens, qu'il faut que je refuse de vouloir me couler comme on se la coulerait douce, comme je me glisserais dans un lit. Et selon Romains chapitre 12 et au verset 2, cherchez dans votre Bible, Romains chapitre 12 et verset 2, je lirai dans cette version, ne vous coulez pas simplement dans le moule de tout le monde. Ça vous déroute un petit peu, n'est-ce pas? Oui, ne vous coulez pas simplement dans le moule de tout le monde. Ne conformez pas votre vie aux principes qui régissent le siècle présent. Ne copiez pas les modes et les habitudes du jour. Laissez-vous plutôt entièrement transformer par le renouvellement de votre mentalité. Adoptez une attitude intérieure différente. Donnez à vos pensées une nouvelle orientation afin de pouvoir discerner ce que Dieu veut de vous. Ainsi, vous serez capable de reconnaître ce qui est bon à ses yeux, ce qui lui plaît et qui vous conduit à une réelle maturité. L'apôtre nous commande ici de refuser de nous laisser couler dans le moule. Les enfants, dites-moi, si vous avez un moule à gâteau en forme de cœur, c'est la saison, en forme de brique, de couronne, la pâte ne prendra-t-elle pas la forme du moule? Certainement. Et je le demande encore aux enfants qui aident leur maman à faire la pâtisserie et qui aiment bien ça, car quand on verse dans le moule, on peut après passer le doigt et lécher, n'est-ce pas, la bonne pâte qui reste au fond du moule. Moi aussi, j'ai fait ça. L'apôtre nous demande de ne pas nous laisser emprisonner dans les traditions, dans les mœurs, dans les tendances, dans les idéologies, dans le prêt-à-penser, dans le système de ce monde. C'est le temps, chers amis, c'est l'heure. Pour nous qui prétendons et qui nous revendiquons du nom de chrétiens, de songer à ce que représente notre baptême, à ce que représente notre engagement avec Christ, si nous sommes des hommes et des femmes de parole. Il y aura toujours un combat à mener pour toujours refuser de se laisser courtiser puis féconder par les idéologies de ce monde. La Bible ne dit-elle pas en Amos 3, verset 3, « Deux hommes marchent-ils ensemble sans en être convenus ?» Si nous marchons selon le monde, chers amis, c'est que nous sommes d'accord avec lui. Comment pouvons-nous marcher d'un commun accord avec les valeurs de la société actuelle? Dites-moi, le m'as-tu vu, le bling-bling, l'orgueil, l'argent, la loi du plus fort, le pouvoir, la séduction, la loi du profit, la profitation. Comment pouvons-nous être d'accord avec ça? Comment pouvons-nous supporter l'idée de nous mettre dans nos affections sous un joug étranger, marcher dans la vie avec quelqu'un qui n'a pas, tout comme nous, fait alliance, une alliance définitive, sincère, avec le Seigneur. Vous penserez ce que vous voulez, mais ne comptez pas sur moi. Si je suis dans mon bon sens, si je suis encore dans mon bon sens, pour me mettre au lit, pour aller dormir avec quelqu'un dont je n'aurai pas la certitude qu'elle est fidèlement et premièrement attachée au Seigneur. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, ça me ferait peur. Il y a un danger à se laisser courtiser par les valeurs de notre société, puis féconder par ses idéologies, car les amours interdites accouchent souvent de choses étranges, non clairement identifiées, non aisément reconnaissables, de choses hybrides, mutantes, des avatars. Et cela donne ce que cela doit donner. On le voit en théologie, en musique, dans le vêtement, dans le comportement, dans la conception des choses de Dieu, dans la conception, par exemple, concernant les fréquentations, dans la conception concernant les fiançailles, dans la conception du mariage, dans la conception de la façon dont doit fonctionner une famille chrétienne, dans la conception de ce qui se résume à ce qu'on pourrait appeler un style de vie, un mode de vie qui devrait être à la gloire de Dieu. Et vous comprenez pourquoi, dans toute la tradition biblique, il y a cette lutte permanente pour éviter la confusion, pour éviter la profanation, pour éviter ce qu'on appelle l'abomination, pour éviter le mélange des genres, pour éviter d'apporter ce qu'on appelle le feu étranger, pour éviter l'acculturation spirituelle qui s'appelle l'idolâtrie quand ce n'est pas de l'autolâtrie. L'autolâtrie, c'est se préférer à soi-même plutôt que la parole de Dieu. Dieu a toujours voulu, chers amis, qu'il y ait une séparation nette, claire, une distinction entre lui et ce qui n'est pas lui, entre le bien et le mal, entre les fils et les filles de Dieu et ceux qui ne reconnaissent pas cette filiation, sa paternité. Chers amis, cette semaine, nous serons là pour avoir des armes, pour mener la dernière bataille spirituelle. Dieu a toujours voulu qu'il y ait une différence entre les vrais adorateurs et les autres. Et c'est pour cela qu'il a lancé ce cri qu'on trouve en Ésaïe 52 et au verset 11, cherchez dans votre Bible, Ésaïe 52, verset 11. Partez, sortez de là, ne touchez rien d'impur, sortez du milieu d'elle, purifiez-vous, vous qui portez les vases de l'Éternel. Chers amis, il ne s'agit pas de se séparer parce qu'on est supérieur ou pur ou meilleur que les autres. Il ne s'agit pas de snober les gens dans notre société, mais de se mettre à part parce qu'on a une mission à accomplir. Tout comme celui qui travaille à la station d'essence porte une chemise ou un polo spécial. J'en ai vu tout plein cette semaine. Et vous aussi, n'est-ce pas, qui avez fait la queue. C'était marqué « bonjour », mais c'était marqué plutôt « bonsoir » parce que c'était fermé. Alors, tout comme l'agent de sécurité a une tenue, et les enfants, dites-moi, qui encore a une tenue spéciale pour travailler ? Le policier, le gendarme, le pompier, ils portent tous une tenue spéciale pour remplir la mission. Serions-nous les seuls à ne pas voir la nécessité de marquer notre spécificité afin de remplir la mission, cette mission de salut? Nous sommes des sauveteurs pour l'éternité, et à ce titre, nous devons être reconnus et identifiés afin de mener la mission. J'aurais pensé entendre un amen à cela. Je l'attends. Chers amis, en parlant de fléaux et des catastrophes, Nous sommes informés du fait que la Martinique ainsi que la région de la Caraïbe se trouvent exposées à des risques majeurs. Les scientifiques se basent sur des signes avant-coureurs, généralement sur des indices statistiques qui indiquent la proximité de la survenue de tels événements. Personne de sensé aujourd'hui ne remet en cause la possibilité certaine, le risque estimé, évalué, que tôt ou tard, nous vivrons des choses difficiles. Il en va de même pour le retour du Seigneur. L'apôtre Paul disait à l'époque, « Il y aura des temps difficiles, des crises, et nous les vivons. » Nous ne pouvons pas dire que c'est un simple accès de fièvre, comme il y en a tant eu à travers l'histoire du monde. Aujourd'hui, c'est la fin, comme la fin s'écrit, F-I-N, et non pas la fin qui va vous tarauder les entrailles, mais après ma prédication. Tout le monde s'accorde à dire que ce qui se passe maintenant à tous les niveaux, politique, écologique, économique et moral, c'est du jamais vu. Chers amis, c'est la quatrième fois en pratiquement 20 ans que je m'occupe pour mon église du département de la famille, que ce soit deux fois ici à la Martinique, une fois à l'Union et encore une fois maintenant. Et je dois avouer, chers amis, qu'il y a des choses qui se passent dans l'église auxquelles nous n'étions pas habitués. Et je ne parle pas du monde, je parle de l'église. Tout comme l'apôtre Paul parlait prioritairement de l'église dans son épître à Timothée. Il y a des libertés que les uns et les autres s'accordent aujourd'hui qui ne viendraient à l'esprit que de très peu de personnes il y a quelques années. Il y a des choses qui, si jamais elles survenaient à l'époque, dont nous aurions honte et pour lesquelles on pleurait dans la repentance. On était des pécheurs, certes, mais on se gardait de devenir un pécheur scandaleux. On s'en affligeait. Maintenant, il arrive qu'on s'en revendique. On est libre. On est en démocratie dans l'Église, dit-on. Dieu comprendra. Et c'est nous qui établissons ce que Dieu doit comprendre. On se fiche pas mal de ce qu'il a clairement énoncé dans sa parole. On revendique le droit à sa vie privée. Personne n'a rien à me dire. Et puis, est-ce que j'étais peur? Même pas peur que Dieu intervienne, comme au temps jadis, pour frapper instantanément le coupable. Aujourd'hui, force est de constater que certains prennent des risques avec leur salut. Ils font joujou avec leur salut. Force est de constater qu'aujourd'hui, il y en a dans l'Église qui fonctionnent comme des personnes qui, ayant entendu à maintes reprises, au vu de la chronique des faits dramatiques annoncés, qu'il faudrait se garder de construire sur pilotis dans n'importe quelle zone et n'importe comment en Martinique aujourd'hui. Ils le font quand même. Ils savent, car ils l'ont entendu, qu'on ne devrait plus bâtir en dehors de normes parasismiques, qu'il faudrait avoir des kits de survie, qu'il serait urgent de renforcer, autant que faire se peut, son habitat. Eh bien, que penseriez-vous de quelqu'un qui ferait délibérément tout le contraire? J'ai vu des maisons construites en Martinique, et il y en a une ou deux tout près de chez moi. Je me dis que pour avoir construit comme ça, c'est soit que l'individu a trouvé le plan de sa maison en cadeau dans une boîte de Bonux, dans une boîte de Pax ou dans une boîte de Génie sans bouillir, mais c'est vraiment pas génial comme plan. Ou alors c'est de la folie non diluée. Et on a raison alors de chanter « Le fou sur le sable a bâti sa maison ». Cognez votre voisin avec votre coude et dites-lui « C'est fou ». Cognez-le, dites-lui « C'est fou ». Comment peut-on se permettre aujourd'hui, alors que tous les voyants sur le tableau de bord de l'histoire de ce monde sont au rouge, alors que toutes les prophéties sont accomplies, alors que le ciel retient son souffle et que le Seigneur revient, qu'on n'entend ses pas sur l'escalier du ciel, il descend avec ses nuées ardentes, il arrive. Comment peut-on se permettre aujourd'hui de laisser l'esprit du monde régner sur soi, dans son couple, dans sa famille. Cognez votre voisin, dites-lui, c'est fou. Comment peut-on se permettre, sous prétexte que la loi nous y autorise, de vivre comme des personnes qui n'ont pas une loi spirituelle et morale supérieure? Cognez encore, dites, c'est fou. Comment peut-on se permettre aujourd'hui d'aller piocher pour trouver son compagnon, sa compagne, quelqu'un qui n'aurait pas fait le vœu honnête et sincère de faire une vraie alliance totale avec son Seigneur? Comment peut-on se permettre de faire la pioche en dehors de l'Église alors que le Seigneur défend formellement, car il nous a dit, tout ce que vous faites dans ce domaine, que ce soit dans le Seigneur. Comment peut-on se permettre de faire de telles choses? Cognez votre voisin, dites-lui, c'est fou. Comment peut-on se mettre avec quelqu'un qui vous empêcherait de parvenir au salut ou qui vous retarderait à ce point dans votre marche vers le ciel? C'est fou. Comment peut-on permettre que l'esprit de division, de lutte, sévisse, s'invite, s'installe dans les couples au point de prononcer des menaces de divorce, au point de passer à l'acte et de divorcer, et trop souvent aujourd'hui dans l'Église, pour des raisons qui ne sont pas bibliques? Comment cela se peut? C'est fou! Comment peut-on se permettre aujourd'hui, entre jeunes, d'avoir des relations sexuelles en dehors du mariage, ceci n'étant pas autorisé par la parole de Dieu, parce que néfaste à notre épanouissement? Cognez, c'est fou! Et si le bon Dieu l'interdit, vous pensez que c'est son problème, ce que vous faites sous la couette, qu'il n'a que ça à faire, de regarder vos bêtises, comme disait Michel Foucault, pour surveiller et punir? Lui, le bon Dieu, il est là-haut dans son ciel climatisé. À la limite, il s'en contrefiche de vos baisers volés, de vos parties de jambes en l'air illicites. Et puis, ce n'est pas parce que vous êtes sur le dos, cuisse offerte, les jambes dessinant la 22e lettre de l'alphabet, que vous faites forcément le signe de la victoire, cher jeune. Ce V-là, c'est pas le V de la victoire, c'est le V de vaincu, c'est la défaite, c'est la bérésina, et vous le savez bien au fond de vous-même. C'est fou, c'est dément. Si le bon Dieu se préoccupe de ça, et tient à vous dire, chers jeunes, attendez quand vous serez prêts, le bon moment, avec la bonne personne et avec ma bénédiction divine, c'est tout simplement parce que c'est moi, le bon Dieu, qui ai créé le sexe. C'est moi qui sais comment ça fonctionne. Et je veux te donner le plus beau des cadeaux, y goûter sans regret, et que ce soit un merveilleux feu d'artifice. C'est mieux que le fait de la baie. Parce que on est neuf l'un pour l'autre. Cher jeune, que tu aies ou pas un projet de mariage, sur la table ou sous la table, inscris-toi à notre prochain séminaire de préparation au mariage qui se tiendra au mois de mai. Et là, tu découvriras la beauté de ce que Dieu prévoit pour toi. Et surtout, en attendant, ne te gâche pas. En Proverbe 10, verset 22, cherchez dans votre Bible, il est dit: c'est la bénédiction de Dieu, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Comment peut-on se permettre, alors que le Seigneur revient, chers amis, que tous les signes l'annoncent pour bientôt? Comment peut-on fouetter par l'égoïsme et par la pulsion? Comment peut-on oser proposer à une jeune fille ou qu'elle puisse se laisser séduire au point aujourd'hui de permettre que la visite, sous prétexte de sauvegarder quelque chose qu'on voudrait encore appeler avec de gros guillemets, mais vraiment de gros et de gras guillemets, quelque chose qu'elle ose encore appeler virginité, et pour cela permettre la visite par la porte de derrière plutôt que par celle de devant? Quand l'apôtre écrivait son épître à Timothée, C'était aussi scandaleux qu'aujourd'hui, que ce matin. Et on pensait que c'était pour l'Église, que c'était pour le monde, alors qu'il s'adressait à l'Église. À ce stade, chers amis, je dirais que si on ne peut être vierge entre les deux oreilles, quel sens a une virginité technique qui se situerait plus bas, là où ça gratouille? La société bientôt permettra le mariage gay. S'il s'agissait encore d'un mariage joyeux, parce qu'en accord avec la volonté de Dieu. Mais ce n'est pas le cas, car Dieu l'interdit. Il en parle comme d'une abomination. Or, l'adoption par des couples homosexuels est à l'ordre du jour, puisque vous le comprenez bien, les candidats aux élections présidentielles sont sous la pression de la rue, qui pousse de plus en plus pour aller dans ce sens. Mais a-t-on mesuré qu'il s'agit là d'un plan de l'ennemi pour pirater le projet voulu par Dieu à l'origine? Un homme, une femme, pas plus, pas moins. Et pendant que je vous expose ces faits, que vous connaissez fort bien, car je ne vous apprends rien en la matière, vous avez compris que le plan de l'ennemi, son but, c'est de pulvériser, c'est de casser, c'est de pervertir, c'est d'annuler, c'est de mettre un signe moins, comme en mathématiques, devant la création de Dieu. Son but avoué, c'est de tenter de changer, de modifier la volonté bonne de Dieu telle qu'elle s'est manifestée à l'origine et d'insinuer le doute. Dieu a-t-il réellement dit? Après tout, pourquoi ne pas essayer? La guerre spirituelle, chers amis, est passée à sa phase la plus intense. Nous sommes face et en préparation pour le dernier combat entre le bien et le mal. Et bientôt, la bonne nouvelle, c'est que le mal sera chaos debout. Bientôt, le mal sera cloué au tapis. Pour l'instant, les forces spirituelles sont engagées dans la bataille. Un combat titanesque entre les forces du bien et les forces du mal. 2012 sera une année charnière pour plusieurs. Une année pour effectuer des choix fondamentaux. Chaque jour, chaque année nouvelle, nous rapproche un peu plus du retour de Jésus. 2012, chers amis, sera pour beaucoup un moment décisif dans leur histoire. Vais-je choisir Jésus, son message, son style de vie, ou vais-je m'éloigner progressivement et me perdre? C'est une question de salut ou de perdition, de vie ou de mort. Il y a une bataille spirituelle qui fait rage aujourd'hui. Et alors que vous avez l'opportunité pendant cette semaine d'écouter ces messages, ne laissez pas passer l'occasion de vous positionner pour votre salut. Il faut le savoir, chers amis, c'est au sein de la famille que l'ennemi veut mettre ses bombes de terroristes pour faire tout sauter, pour faire tout péter par le divorce, par la lutte intestine, par la rébellion, par l'opposition parents-enfants, par l'incompréhension, par tous les problèmes qui font qu'un homme et une femme ne parviennent pas à se comprendre, à s'aimer, à être présents ensemble pour élever leurs enfants. Et finalement, après quelques moments de vie commune, ils décident de tout faire sauter, de tout recomposer. Mais ils oublient que bien donner, c'est bien donner, et reprendre, c'est voler. Et la société entre en décomposition. Cette semaine, nous aborderons des thèmes très importants. Certains, comme je l'ai dit, nous remettront en question. D'autres nous scandaliseront peut-être, mais nous placerons face à une décision à prendre. Il ne s'agit pas de craindre de se sentir jugé, menacé, mal à l'aise, repris. La parole de Dieu est là pour relever. Et selon Jérémie 29, verset 11, il y a de la part de notre Dieu, pour vous, chers amis, un projet de paix, non de malheur, et un avenir. Il ne s'agira pas simplement de venir passer de bons moments, certainement, mais pas seulement. Il ne s'agira pas de venir écouter de beaux discours, mais de vous dépêcher de saisir de toute urgence le moyen, les outils, la recette pour nous permettre d'échapper aux conséquences du jugement. Car le retour du Seigneur Jésus, auquel nous croyons, vient pour rétablir toutes choses selon sa volonté, clairement énoncée aux origines. Et tout ce qui n'est pas de lui, bientôt, va disparaître. Voilà pourquoi nous voulons tout faire pour nous trouver en harmonie avec sa bonne et divine volonté. Chers amis, chers visiteurs, un message de ce genre a été prêché il y a de cela près de 2000 ans, après que le Christ ait établi son Église, à la naissance de l'Église. Les apôtres, convaincus de la vérité de sa parole et de la proximité de son retour, ont exhorté les foules. Ils ont prêché le message de la repentance. Et le motif était, comme on le trouve en Acte 2, verset 40, « Sauve-toi de cette génération corrompue !» Et à cause de cela, ils furent jetés en prison. Ce message fut prêché à tous les individus, quelle que soit leur classe sociale, quelle que soit la hauteur de leur compte en banque, quelle que soit leur position dans la société. Ils se sont trouvés face à un défi, accepter ou refuser, être sauvé ou être perdu. Un jour, un homme puissant faisant partie des troupes d'occupation, qui, comme c'est souvent le cas, à part quelques émeutes à Maté, son temps, il le passait à casser du juif, contrôle d'identité fréquent, quelques arrestations arbitraires pour délits de faciès, délits de sale gueule. À part ça, il faisait bon vivre sous le soleil de Judée. C'était le coin idéal pour passer du bon temps en Palestine avec sa famille. C'était l'occasion de connaître le pays et en même temps de prendre du galon. Cet homme se trouva au contact du message prêché par les apôtres de la part du Seigneur Jésus. Message qu'il appelait à mettre de l'ordre dans sa vie, à reconnaître le vrai Dieu et à vivre selon les principes de l'Évangile. Son cœur fut saisi par la vérité. Il ne pouvait se dérober. Il ne pouvait faire marche arrière devant la démonstration de puissance de qui est Dieu. C'est alors qu'il décida, là, sur le champ, de mettre de l'ordre dans sa vie, de se convertir au message de Jésus et de suivre l'Évangile. Vous imaginez ce que cela a dû représenter pour cet homme qui n'était pas juif, pour cet homme faisant partie des troupes d'occupation, pour cet homme d'une autre race, pour cet homme qui n'avait ni papa ni maman en Israël, pour cet homme d'une autre culture, je n'oserais pas dire d'une autre civilisation, le mot est empoisonné. Alors, il avait des plans, des projets de carrière, d'ascension sociale, mais il accepte de renoncer à tout cela pour son salut. Mais attention, il ne va pas vers le salut tout seul. Il ne s'agit pas de voir comment chacun s'en sort, comme des blattes surprises en pleine nuit par la lumière, chacun pour soi, sauf qui peut. Le geôlier se sent responsable des siens. Ouvrez votre Bible en Actes 16, versets 33 et 34. Et nous terminerons avec cet exposé de cette situation. Le texte biblique signale à deux reprises. Lisez le texte depuis 29 à 34. Le texte biblique signale à deux reprises cette préoccupation affectueuse. Les siens, sa famille. Alors, le geôlier ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Il les fit sortir et dit, « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Verset 30. Paul et Silas répondirent, « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Ils lui annoncèrent la parole du Seigneur, ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Il les prit avec lui à 7 heures même de la nuit. Il lava leurs plaies. Et aussitôt, il fut baptisé, lui et tous les siens. Les ayant conduits dans son logement, il leur servit à manger et il se réjouit avec toute sa famille de ce qu'ils avaient cru en Dieu. Le projet de Dieu, chers amis, il est réjouissant. Et je voudrais terminer sur cette bonne nouvelle. Si nous suivons ses recommandations, le projet de Dieu, c'est que nous soyons heureux, en famille, tous ensemble, et que chacun dans la famille soit sauvé. Le salut, chers amis, ce n'est pas quelque chose de cotonneux, d'évanescent, qui attend demain, ou quand j'aurai la barbe blanche. ou alors quand je vais m'appuyer sur le déambulateur, ou encore au moment de l'extrême onction. Non. Le salut, c'est déjà tout ce que me donne l'Évangile aujourd'hui, maintenant. Savoir que j'appartiens à la grande famille de Dieu par le baptême, marié ou pas marié. Je ne suis jamais seul. Je fais partie d'une famille dont Dieu est le Père et il saura s'occuper de moi. Je voudrais que nous puissions repartir d'ici avec cette certitude, chers amis. Il y a de grands périls. Il y a des cataclysmes naturels, mais aussi spirituels qui nous attendent. Et nous sommes au-devant d'une grande tragédie. Et ce monde vit, et bientôt sera dans la liesse du carnaval, comme si Vaval était roi. Mais ça nous mène où, ça? Le salut, c'est d'abord se convertir. Avoir cette attitude qui consiste à dire « je vivais ainsi, je croyais cela, je me comportais de telle ou telle manière dans ma vie, dans mon couple, dans ma famille, désormais, tout comme cet homme au chapitre 16 et au verset 29, qui tombe à genoux et qui dit, verset 30, « Seigneur, que dois-je faire pour être sauvé ?» Et ça, c'est la question que tout un chacun doit se poser. Que dois-je faire pour être sauvé ? Il y a une réponse. Le salut, c'est quelque chose qu'on touche du doigt, quelque chose de réel, chers amis. Autrement, si le salut, c'est, si l'évangile, c'est du pipeau, si c'est parole en bouche, si c'est qu'on en vent qu'à siffler à dents, pieds pois sèches, si c'est qu'on de l'eau qu'à glisser à soupliment qu'en a, vous comprenez alors qu'on perd son temps ici. Vaut mieux aller au marché à midi, acheter ou vendre ses dachines, ou aller chercher quelque chose d'autre à faire. Si l'évangile n'a pas de force, si l'évangile n'apporte rien, on fait quoi là? J'allais dire en dimanché, en sabbaté comme on est là. On fait quoi là? Si ça n'a pas de force, si ça ne mène à rien. Le salut, pour ceux qui l'ont expérimenté, c'est tout autre chose. C'est puissant. Comme aime à dire un ami que j'aime bien, c'est renversant. Ça change la vue. Ça change la vie. On est débarrassé de la culpabilité des erreurs et des fautes commises. On n'est plus prisonnier de son passé. On est libéré, comme le chante si bien Maggie Blanchard. On n'a plus de stress quand on pense au jugement, car désormais l'annonce du jugement, l'annonce du retour de Jésus, c'est bonne nouvelle. Bonne nouvelle d'un verdict d'acquittement. Le salut, c'est quoi? Eh bien, c'est faire l'expérience de la puissance de Dieu, agissante, puissante. On sait que le salut est possible, tout comme ce geôlier qui a expérimenté, parce qu'il l'a vu, les lourdes portes trembler, les murs s'effondrer et les prisonniers libérés par la puissance de Dieu, alors qu'on les avait placés dans la prison intérieure, double cordon de CRS, double peloton de garde mobile. Mais la puissance de Dieu balaie tout ça. Amen. Désormais, on ne vit plus avec la crainte, mais avec l'assurance que la puissance de Dieu peut se manifester dans ma vie, parce qu'on l'a expérimenté, et se manifester avec éclat pour produire un changement extraordinaire. Le salut, c'est quoi? Quand le geôlier, le soldat romain, est devenu dépressif, suicidaire, il a tiré son épée pour se trucider, il était moins 5. Pour combien d'entre nous n'est-il pas moins 5 aujourd'hui? Combien sont au bord de commettre l'irréparable? Laisser la maison, fuguer, divorcer, devenir méchant. Pour bien fait, tout le monde sait que ce n'est pas en seule maman qu'a fait Ich méchant. On est prêt à ça. Mais quand on rencontre Jésus, on est sauvé par le gong avant de commettre l'irréparable. Hier soir, alors que j'étais en train de feuilleter un document, il était tard, le téléphone sonne. J'entends une voix haletante, quelqu'un qui est vraiment mal. Je lui demande, mais qu'est-ce qui se passe? Il a du mal à s'exprimer. Finalement, je comprends que c'est un jeune qui a laissé chez lui, on lui a volé ses bijoux, on lui a piqué sa copine, Il est aux abois et apparemment il est là. On lui a donné mon numéro. Il est égaré, il est là avec un fusil à canon scié. Je prends du temps pour le calmer, pour essayer de comprendre, pour essayer de savoir, jusqu'à ce que finalement, ça redescend la pression. Et puis je lui dis d'attendre, j'essaie de le faire patienter. Pendant ce temps, je téléphone à un ancien qui est dans son quartier que je connais pour aller le récupérer l'arme, etc. Je dis, Seigneur, mais faites que je n'entende pas une déflagration au téléphone. Moins 5. Le salut, c'est quand le Seigneur intervient à moins 5. Le geôlier allait se trisfider. On ne va pas venir toute une semaine ici, chers amis, pour se rassembler et chanter comme des suicidés. Malgré la crise, malgré nos problèmes, on ne viendra pas pour ça. Mais on viendra pour rencontrer Jésus qui permet de faire renaître l'espérance. Une nouvelle vie est possible. Le salut, comme il est dit dans le texte, c'est la réjouissance. Et c'est ce que le soldat a d'abord expérimenté. Se réjouir, mais pas tout seul, se réjouir avec toute sa famille. Pour tous les compagnons qui ont si bien ouvert le programme ce matin, si vous passez par l'allée centrale pour nous saluer dans un moment, vous recevrez un document de ma part et là-dessus vous lirez et vous verrez que l'évangile, c'est vraiment pas une mine d'enterrement, c'est vraiment pas un suaire, ça ne me pompe pas l'air, l'évangile c'est merveilleux. N'oubliez pas de passer par l'allée centrale, si vous passez à côté, mais dans l'allée centrale. Chers amis, je termine en disant ceci. Il n'y a pas de meilleur cadeau de la Saint-Valentin que d'offrir Jésus, d'offrir le salut à ceux que vous aimez. Justement, vous aimez votre époux, votre épouse, pourquoi ne pas le lui dire? Pourquoi laisser s'afficher la méchanceté, la dureté de cœur? Laissez le champ libre à ce qui est laid. Alors ce que je vous propose, pasteur Gély vous a parlé d'une boîte aux questions qui se trouve à l'entrée. Vous avez la possibilité de rédiger votre déclaration d'amour et de la mettre dans la boîte ou de la remettre à une hôtesse. Et puis d'ici mercredi, eh bien, nous allons sélectionner avec notre jury quelques déclarations qui seront primées. Les autres ne seront pas ignorées. Les enfants, vous aimez très fort papa et maman. Vous voulez le leur dire. Eh bien, écrivez un joli petit mot d'amour à votre maman et votre papa. Et là aussi, nous allons sélectionner parmi les beaux petits billets. Parents, vous aimez vos enfants. Vous leur dites de temps en temps. Mais cette semaine, ce sera l'occasion de leur dire en grand. Pourquoi ne pas rédiger une petite déclaration d'amour? Et là aussi, nous allons en sélectionner quelques-unes. Et puis, si vous êtes tout simplement amoureux, amoureuse, et que vous vous préparez à aboutir au grand jour, rédigez la déclaration qui va lui arracher le cœur de bonheur. Ne craignez rien, l'Église est équipée en défibrillateur. N'ayons pas honte de manifester nos sentiments. Le salut, chers amis, je voudrais que vous rentriez à la maison avec ça. Le salut, c'est d'abord l'épanouissement que j'apporte aux autres dans mes relations avec eux, avec chacun dans la famille, le mari qui aime tendrement son épouse qui le respecte et qui lui est fidèle, les deux qui pratiquent une bonne communication, de façon à ce que personne ne traverse le désert de la solitude. Il n'y a rien de pire que la solitude à deux. Dans ce cas, mieux vaut vivre seul que mal accompagné, comme le dit le dicton. Le salut, c'est de fréquenter quelqu'un en tout bien, tout honneur, dans l'Église, avec sérieux et respect, sans avoir à lui faire des propositions malhonnêtes, sans la draguer pour la laisser tomber, sans vouloir l'essayer passer toutes les vitesses et l'abandonner comme une vieille bradjack au bord du chemin. C'est la période, n'est-ce pas? Pas de bradjack sur les parkings de l'Église. Vous savez que cela peut mener certaines personnes à colson ou en internement pour la vie. On ne badine pas avec l'amour chez ceux qui ont rencontré Jésus et qui lui demandent que veux-tu que je fasse pour être sauvé ? Le salut est apporté quand Jésus est au centre de la vie personnelle et familiale et qu'on est capable de se pardonner les uns les autres et de demander, Seigneur, que veux-tu que je fasse ? Le salut est apporté quand les deux jouissent d'une sexualité épanouie, satisfaisante dans le couple. Les statistiques d'ailleurs, les études récentes le prouvent, que les femmes chrétiennes ont des orgasmes plus intenses que les autres. Est-ce parce que leurs maris chrétiens font bien leur job ? Ce n'est pas une affaire réservée aux acteurs du X, qui d'ailleurs ne vous vendent que de la poudre aux yeux. Ça, c'est du très mauvais cinéma. Là encore, il s'agit de demander au Seigneur qui veut notre épanouissement, notre salut. Parce que c'est le salut, ça aussi. Que veux-tu que je fasse ? Le salut, c'est quand l'enfant peut bénéficier de ses deux parents qui s'aiment et qui le prouvent et qui se le prouvent, et qui lui donnent confiance dans la vie. Il est sauvé alors par des parents qui évitent d'être en scandale pour les plus petits, car ils ont demandé, Seigneur, que veux-tu que je fasse pour que mon enfant soit sauvé ? Oui, chers amis, en 2012, à l'aube de toutes les grandes catastrophes annoncées, vous pouvez encore, de toute urgence, être sauvé, vous et toute votre famille. Nous serons ensemble ici cette semaine pour gagner ensemble, en famille, et nous faisons tous partie de la grande famille de Dieu, pour gagner cette grande bataille spirituelle en demandant ensemble au Seigneur, que veux-tu que je fasse pour être sauvé ? Je voudrais ce midi, avant que nous partions, que tous ceux qui le veulent, grands et petits, qui le souhaitent, commencez cette semaine en demandant, Seigneur, que veux-tu que je fasse ? Que veux-tu que je fasse ? Je te posais vraiment sincèrement la question. J'ai longtemps fait semblant, j'ai essayé avec mes bouts de ficelle, ça ne marche pas. Que veux-tu que je fasse ? Dans ma vie, à ce point-là dans ma vie, alors que nous sommes à l'orée d'une grande crise, pas seulement économique, mais morale et spirituelle. Que veux-tu que je fasse ? Ce n'est pas moi qui vais vous le dire. Ne comptez pas sur le prédicateur. Mais la parole de Dieu va parler. L'Esprit de Dieu parlera à vos cœurs. Et vous saurez ce que vous aurez à faire. Mais il faut au moins poser la question, que veux-tu que je fasse ? Et c'est quand le geôlier a posé la question que la réponse lui a été donnée et qu'il a pu enfin se réjouir. S'il y a des personnes ici, grandes et petites, qui voudraient ce matin dire, Seigneur, que veux-tu que je fasse ? Alors qu'elles se mettent debout, nous allons poser ensemble la question. Seigneur, que veux-tu que je fasse ? Et la réponse nous sera donnée. Si vous voulez vraiment de cette réponse et que vous êtes vraiment passionné d'entendre la réponse de Dieu, approchez-vous, nous prierons ensemble. Approchez-vous, nous allons prier ensemble. Tous ceux qui le désirent, posez la question. Avoir leur réponse. Pas une réponse pour tout le monde, mais avoir la réponse qu'ils attendent. Approchez-vous, grand et petit, approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Cette semaine, notre but, c'est de parler ensemble pour parler à Dieu. Approchez-vous encore pour que d'autres puissent s'approcher. Approchez-vous et posons la question au Seigneur, que veux-tu que je fasse à cette heure de l'histoire de ce monde ? Et posons-lui vraiment la question. Laissons la place à des jeunes s'ils veulent avancer, ne faisons pas obstacle s'il y a des jeunes derrière nous, laissons-les avancer pour que nous puissions prier ensemble. Personnellement, je serais descendu près de vous si j'avais un micro, mais je resterai ici. Mais s'il y a des jeunes qui veulent poser la question au Seigneur, ils peuvent s'avancer et nous prierons ensemble. Nous ferons deux courtes prières. Mon ami Tony et moi-même, nous prierons pour que le Seigneur se manifeste à chacun d'entre nous, qu'il accorde dans sa grâce sa réponse à notre question. Tous ici, nous avons notre question. Que dois-je faire pour être sauvé, pour avoir la solution à ce problème qui m'ennuie dans ma vie ? Posons la question à Jésus. Tony, tu veux bien prier, je prierai après.
Notre Seigneur et notre Dieu, quel mot utiliser ce matin pour te dire merci? Merci parce que ta parole a été ce qu'elle doit être, une épée à double tranchant. Certainement, cette parole nous a transpercés ce matin, Seigneur. Nous a peut-être même blessés. Mais merci pour cette parole, car d'un tranchant, ta parole éveille nos consciences. Et de l'autre tranchant, ta parole nous dit, « Je t'aime d'un amour éternel. J'ai versé mon sang sur la croix pour que tu sois pardonné. Je te donne mon esprit qui va renouveler ton intelligence, changer tes priorités et te mettre sur la voie de la vie. Ô Seigneur, agis envers nous selon ta parole. Secoue notre conscience, mais aussi pardonne-nous nos péchés. Transforme nos vies, régénère-nous par ta parole et par ton esprit. C'est vrai, Seigneur, que le monde est corrompu, qu'il n'est pas toujours évident de trouver sa place. Mais par ton esprit, nous reconnaissons ce matin que c'est possible. Ô Seigneur, descends parmi nous, bénis-nous, fais-nous du bien et donne-nous surtout l'envie de revenir afin de prendre encore des vitamines spirituelles pour nous-mêmes, pour notre famille et pour la société. Ô, que l'Éternel nous bénisse et qu'il nous fasse du bien, car c'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen.
S'il y a des personnes qui veulent encore s'approcher, ou en tout cas dans leur cœur avoir cette attitude où ils s'approchent du Seigneur et poser la question, que veux-tu que je fasse, Seigneur? Ô notre Dieu, notre Père, toi qui nous aimes, toi qui as voulu te révéler à nous, nous parler, pour nous arrêter dans notre course folle, nous empêcher de commettre l'irréparable, comme ce jeune homme hier soir. Seigneur, tu nous aimes tellement. Il n'y a pas de mots pour illustrer cela. Mais quand nous sentons notre cœur battre, ton cœur bat à l'unisson du nôtre. Et si nous avons un problème, une difficulté à vivre, une demande à faire, maintenant, Seigneur, nous sommes assurés que tu prends cette demande en compte. Que veux-tu que je fasse? La solution, tu l'as, Seigneur. Peut-être que ça fait des mois, des années que nous nous posons des questions, mais la solution, tu l'as, Seigneur. Aide-nous à ne pas douter, mais aide-nous à nous approcher de toi, afin que, au moment où tu l'auras décidé, que tu puisses manifester toute ta puissance, comme tu l'as fait dans cette geôle où tu as brisé les murs, tu as déchaîné les prisonniers. Et cette victoire, tu peux la faire pour nous aussi. Tu peux briser les murs, tu peux briser nos chaînes, et tu peux nous permettre de nous réjouir, parce que le salut, c'est la réjouissance. Tu ne nous appelles pas dans ton église pour souffrir, pour marcher courbé, avec le poids du doute, du questionnement. Mais tu nous appelles vers la lumière pour nous donner ta lumière. Bénis chaque enfant, chaque jeune, chaque adulte, chaque aîné. Bénis ta famille, Seigneur, car c'est toi qui en es le Père. Et réponds et permets à chacun de sortir d'ici en sentant ta présence, en ayant ce bout de lumière qui lui permettra d'espérer et que nous puissions nous retrouver selon ta volonté demain soir pour poursuivre et avoir tes réponses. Renvoie-nous ta paix. Renvoie-nous avec la sérénité, avec la foi, Seigneur. Nous t'avons prié dans le nom de Jésus qui nous aime. Amen. N'oubliez pas, les jeunes qui souhaitent avoir ce document, de passer par l'allée centrale afin de le récupérer auprès de nous.
Debout. Façonne ma vie, fais en moi ta volonté.